Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. Enregistrement dans des conditions spéciales cette semaine. Mes excuses s'il y a des difficultés de qualité audio. J'ai pas pu avoir mon micro, donc on va voir ce que ça donne. Il risque d'y avoir plutôt des bruits autour parce que je sais que ce micro est un petit peu plus sensible. Donc si je tape ma table, etc., il devrait y avoir des bruits. J'espère que ce sera quand même audible et intéressant. Dans tous les cas, la condition qui me mène à devoir avoir un micro moins bon est la même condition qui me mène à avoir un podcast plus court, c'est-à-dire que je ne suis pas chez moi. Je suis actuellement chez un ami qui s'appelle Enguerrand et je le dédicace à Montpellier. J'avoue que je fais la dédicace pour lui et pour moi pour avoir cette petite capsule personnelle en réécoutant cet épisode et me rappeler dans quelles conditions elle a été faite. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'allais vous dire aujourd'hui, quoique, en tout cas le lieu et la personne n'est pas intéressante pour le sujet, même si elle est pour moi. Le but, c'est d'essayer de vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine par rapport à ce déplacement, donc au-delà de ma vie personnelle qui en intéressera peu, essayer de vous transmettre ce que je vis quand je me déplace et comment ça peut être utilisé comme une opportunité de bien travailler, ou en tout cas d'être motivé ou de se motiver par un espèce de processus dans lequel on se bloque. Ça me fait penser à un ami avec qui j'ai fait ma licence de psycho, à qui voulait qu'on définisse ensemble une théorie quand on sera chercheur. Malheureusement, lui, il n'est pas chercheur, donc peut-être que je le ferai en son nom et je l'appellerai. On voulait l'appeler la théorie du blocage. Et en fait, c'est un petit peu la capacité à se connaître et à se connaître tellement qu'on se met dans des situations dans lesquelles on sait qu'on agira d'une telle manière pour se pousser à faire l'action souhaitée. Et en fait, ce que lui faisait, donc c'était Benjamin, salut à toi si tu m'écoutes, j'y crois peu, mais sait-on jamais. Il prenait souvent des voyages à faire pendant le week-end, et il savait que pendant ses heures de train, il allait être dans de bonnes conditions pour travailler ou pour réviser. Et du coup, lui, pendant ses partiels, il révisait en voyageant et en allant voir des villes en France. Et je trouvais ça assez intéressant parce que en se connaissant, il savait qu'il aurait moins envie de faire, je sais pas, de jouer ou de faire autre chose que de travailler dans un train. Et donc, il préférait se bloquer dans une situation pour travailler davantage. Et c'est un petit peu sur ça que je voulais discuter aujourd'hui parce que du coup, je suis en déplacement, non pas pro mais perso. Et j'en ai profité pour m'organiser. Pour me dégager du temps uniquement sur un sujet qui est un article scientifique, donc ma scoping review, je vous en ai déjà parlé un peu plus précisément. Et donc mon objectif c'était de me donner du temps et me dire je change d'endroit, je change d'environnement, je vais en profiter pour pouvoir travailler sur un sujet. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant si c'est possible, donc je sais que je transmets des choses qui sont pas forcément possibles pour n'importe quel étudiant ou même n'importe quel, on va dire, entrepreneur, parce qu'il y a des activités qui permettent pas d'être mobile. Mais si vous avez l'opportunité de le faire, je trouve que c'est bien de le voir comme une opportunité et pas un frein, même si j'ai en ce moment assez envie d'une routine. Bah, ça fait du bien de se dire, ok, là, je vais partir X jours, pour le coup, là, c'est 10 jours. Et pendant ces 10 jours, le seul sujet va être d'avancer sur ma scoping review. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous met dans un univers mental où on s'est un petit peu promis quelque chose. Ça permet de mettre des deadlines entre des projets, de pousser des deadlines en se disant déjà avant de partir, j'ai des choses à faire, je vais essayer de les finir pour me libérer. Donc ça nous presse avant de partir. Et pendant qu'on part ou qu'il y a un déplacement, on se dit bon, ce serait vraiment bien de finir ou d'arriver à telle étape, à tel chapitre, à tel sujet, le temps de mon temps de voyage. Et donc, c'est motivant. Ça permet de faire des petites phases motivantes là où je trouve que dans une routine où on travaille tout le temps chez soi, par exemple, ou même si on travaille tout le temps au bureau, on peut perdre un petit peu cette envie de se dire, allez, cette semaine, je finis ça, ou aujourd'hui, je finis ça. Là où quand il y a un décalage, une différence géographique et temporelle, on a un peu plus envie de se tenir à ces deadlines parce que ça rend le passage entre deux projets ou ça rend la deadline un peu plus physiquement compréhensible et on a un peu plus envie de s'y tenir. Donc ce que je vis cette semaine, c'est que je me suis un petit peu promis à moi-même que j'aurais fini une version 1 de mon article La Scoping Review. Et donc ça fonctionne bien. Ça commence déjà par le train. Où c'est un super endroit pour travailler, je trouve. En plus, il n'y a souvent pas énormément de connexions, donc on est un peu plus poussé à potentiellement travailler sur un Word, sur un Excel, plutôt qu'à aller regarder des vidéos, que ce soit sur son téléphone ou sur son PC. Et donc, déjà, moi, les trajets de train, quand je peux, je les prends en première. Encore une fois, ce n'est pas possible selon toutes les bourses, mais c'est quand même une solution qui fonctionne bien avec moi. Moi, je fais des trajets où souvent ça coûte pas beaucoup plus cher d'aller en première. Et j'avoue que je le vois comme un investissement sur mon travail. Ça fait partie un peu du switch qui s'est passé ces derniers temps, hein, de me voir vraiment comme, bah, comme une entreprise et donc de savoir investir en me disant bah, soit je me déplace la place va me coûter moins cher, mais je vais moins bien travailler, soit je mets un peu plus et je vais pouvoir travailler un peu plus. Bah, un peu mieux et en étant un peu plus productif. Et donc mon choix ces derniers temps se porte aussi sur mon confort pendant le trajet, ce qui fait que déjà le temps du trajet n'est pas du tout un temps jeté, mais c'est un temps de travail. Et donc ça veut dire que l'aller et le retour ne sont pas des temps perdus. En plus, on se sent un petit peu bloqué et il y a aussi encore une fois ce sujet de sectoriser les deadlines, et là de se dire, bah là j'ai 4 heures par exemple de train, dans ces 4 heures il faut que je fasse ça. Ça rend un petit peu, ça gamifie un petit peu l'activité, et chose où bah, moi j'ai beaucoup plus de mal à le faire, de me dire aujourd'hui là j'ai 4 heures, je dois finir cette tâche, je trouve qu'on le perd un peu, alors que quand il y a un déplacement et qu'il y a un événement physique, ça permet un peu plus de se motiver. Donc ça marche déjà dès le train. Et ensuite, ça fonctionne bah, une fois qu'on est à un autre endroit, parce qu'on sait qu'on arrive à tel jour, on part à tel jour et qu'on a dans cet espace de temps décidé de faire tel type de tâche, mais aussi parce que je trouve que le fait de pas être dans son environnement naturel nous donne moins envie de faire autre chose que de travailler, en tout cas quand on est dans des conditions où on peut travailler efficacement. Je trouve que c'est un peu plus facile je sais pas, de procrastiner quand on est chez soi plutôt que de procrastiner quand on s'est déplacé quelque part et qu'on s'est dit aujourd'hui je dois travailler. Peut-être tout simplement parce qu'on est moins à l'aise, moins chez soi, on a moins toutes les activités possibles pour travailler, donc on se dit bah le mieux à faire ça reste de travailler. Mais aussi parce que bah aller dans un nouvel environnement ça fait du bien et puis ça rend aussi le moment précieux dans un sens. Parce que on peut se dire, en tout cas quand on aime bien ce qu'on fait, que faire. Moi, je suis content du coup de me dire que cet article-là, le moment où j'aurai avancé sur cet article, sera peut-être associé à ce moment de vide-là où j'étais pas chez moi. Et ça rend, ça rend le souvenir de ce travail un peu plus sympa aussi. Je pense qu'il y a un phénomène aussi d'addition entre les souvenirs et les moments positifs vécus au travail qu'on fait. Et donc je pense que ça peut permettre de mieux voir un projet. En tout cas, c'est ce qui se passe. Je vois mon article de manière plus légère avec une plus grande distance. Je pense qu'il y a même un sens assez théorique hein, sur ces histoires de distance. Je ne sais pas si je l'ai déjà transmis dans le podcast, mais malheureusement, je vais commencer à me répéter parce que j'ai oublié tout ce que je vous ai dit. Mais ça me fait quand même penser au sujet des distances psychologiques, de la Construal Level Theory de Tropé Liberman. Voilà pour les geeks de littérature, c'est pour vous. C'est une théorie que j'adore qui explique que nous avons connaissance de distances psychologiques vis-à-vis d'objets sociaux. Et que donc on peut percevoir une distance soit temporelle, physique hypothétique. Je crois qu'il y en a une quatrième que j'oublie tout le temps. Et en disant cette phrase, il me semble que je vous ai déjà dit ça. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, cette histoire de distance psychologique, je pense qu'on pourrait la calquer aux effets que ça fait de travailler en dehors de son endroit naturel pour faire un pas de recul. Parce que je pense que, en fait, c'est pas ce que je pense, le principe de cette théorie des distances psychologiques est que les distances psychologiques, une distance psychologique sur un plan entraîne une distance psychologique sur un autre plan. Donc si je suis loin géographiquement, je peux me sentir loin temporellement, ou je peux juger quelqu'un sur des traits qui sont plus abstraits, plus généraux. Et en fait, le vrai continuum sur lequel tous les plans peuvent s'inscrire, c'est le continuum concret, abstrait. Et je pense que quand dans l'écriture, on a une phase où on a besoin de relire, de faire un pas de côté, et bah, se mettre en distance physique et donc psychologique de son projet de thèse, enfin en distance physique de son lieu de travail normal, on peut se mettre en distance psychologique de son sujet de thèse ou de l'article qu'on fait. Et donc je pense qu'il y a vraiment une logique même un peu plus précise sur le sujet de la distance psychologique qui mène à voir son projet de manière plus sereine, plus détachée, parce que le fait d'être plus abstrait, on est plus, on est moins stressé et moins précis sur des émotions. On a des émotions qui sont plus générales et on peut voir le projet de manière plus générale. Et je pense que c'est une explication qui fait que de temps en temps, si vous vous sentez bloqué dans votre motivation ou sur voir là où vous en êtes sur un gros projet de manière plus générale, essayer de retrouver un angle sur un article ou sur un projet, et ben, je pense que ça peut être intéressant de prendre de la distance géographique. Ça peut être prendre de la distance temporelle, donc faire une pause, hein, on appelle ça des vacances. Mais si on peut pas trop se permettre de prendre des vacances en termes de gestion de projet, bah, se dire, allez, je vais, je sais pas, même, j'ai pas envie que mes conseils soient décontextualisés et impossibles à faire si on n'a pas d'argent. On peut imaginer aller chez un ami, une tante, des grands-parents et se dire, bon, bah, là, j'y vais une semaine et je fais une petite retraite méditative dans laquelle je vais avancer sur tel sujet. Je trouve que ça fonctionne bien et ça peut être un bon artifice aussi de remise en question d'un projet et aussi ouais, de baisser le niveau de stress. Au-delà de l'explication de la théorie des niveaux de construit et donc de cette distance psychologique, je voulais vous transmettre une implication qui est différente et aussi une explication qui est que une bonne manière de déconstruire de mauvaises habitudes, mais donc d'en construire de nouvelles bonnes, c'est de profiter de l'opportunité d'un changement de vie pour y adosser de la nouveauté. Donc, on peut admettre que si on travaille chez soi pendant longtemps, on finisse par prendre des mauvaises habitudes qui sont très difficiles à enlever. Par exemple, regarder son téléphone avant de dormir, ou lézarder sur son canapé au lieu de travailler, avoir trop envie de regarder une série au lieu d'avancer, de réviser, etc. C'est très difficile à enlever les bonnes habitudes parce qu'elles communiquent toutes entre elles. Et je pense qu'il y a du conditionnement et qu'il y a des stimuli et qu'à force d'être assis à côté de sa console, et ben on va avoir envie de l'allumer, etc. Là où si on change de cadre, et même imaginons si on change dans un cadre où il y a quand même une console, où il y a quand même Netflix, et ben, le fait de ne pas être exactement au même endroit, ça permet de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et du coup, c'est vrai que ça me fait penser que même pour des habitudes qui sont trop ancrées, ça peut être un bon moment de se dire, j'ai l'opportunité dans ma vie, je sais pas pourquoi, de passer une semaine à un endroit, une semaine à un endroit, je vais en profiter pour arrêter de faire ça. Parce que, par exemple, je trouve que c'est plus simple de se dire que je vais arrêter de, je sais pas, regarder mon téléphone, soit en m'endormant, soit en me réveillant, quand je suis pas chez moi, plutôt que quand je suis chez moi. Parce que je trouve que les habitudes sont trop ancré dans notre environnement naturel et que donc ça peut être un passage intéressant de profiter d'un autre endroit géographique pour reconstruire et réinventer un petit peu sa manière d'être et de faire. Le meilleur exemple d'application, donc ça peut être pour des habitudes, mais moi c'est concrètement comme ça que j'ai arrêté de fumer. J'ai pas fumé énormément, mais j'ai fumé quelques années globalement pendant mes premières années de fac. Les 3 premières années de fac, j'avais commencé un petit peu avant au lycée, donc on va dire que j'ai fumé 4 ans. Je sais, pour les gros fumeurs, je sais que c'était pas grand-chose, mais j'étais quand même dans une forme d'addiction où il fallait que je fume tous les jours, pas énormément, je pense jusqu'à 6 cigarettes. Je développe juste pour que vous vous rendiez compte, surtout pour que les fumeurs, vous me placiez selon votre niveau d'addiction sur est-ce que je suis pas du tout un fumeur ou est-ce que je suis un peu. Mais bref, je me sentais quand même dépendant de la cigarette pendant des années. Et j'ai profité de l'opportunité de changer de ville pour faire mon master pour me dire, en fait, dans cette nouvelle ville, je fumerai pas. Et donc, ça a été très difficile, mais je pense que ça a été beaucoup plus simple que de passer du jour au lendemain d'une vie de fumeur à une vie de non-fumeur parce que y a énormément de choses contextuelles qui changent et qui font que l'habitude est facile à enlever. Mais en fait, une habitude qui est enlevée, c'en est une autre qui la remplace. Parce que je pense que le fait de ne pas fumer, c'est une habitude. On ne perd pas l'habitude de fumer le matin, on prend l'habitude de ne pas fumer le matin en même temps. Et je pense que y a beaucoup de choses qui sont liées pour la cigarette et aux addictions. L'habitude de voir les amis et de, je sais pas, dès que je vois tel ami à tel arrêt de bus le matin, on a l'habitude de fumer une cigarette ensemble. Ou l'habitude d'avoir telle fréquentation et de sortir à tel moment du cours pour aller fumer. Quand on change de cadre et qu'on change de vie et qu'on peut reprendre un petit peu à zéro un sujet comme fumer ou des bonnes ou des mauvaises habitudes, c'est beaucoup plus facile. Parce que notre réseau social, les amis qu'on se fait peuvent différer, ils apprennent à nous connaître avec les nouvelles habitudes qu'on a envie d'ancrer. Donc il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pression. On n'a pas les gens qui disent « Ah, t'as arrêté de fumer, ah, tu fumes plus, tu veux pas une cigarette, etc. » On reprend du début et on peut se présenter aussi sous une identité un peu plus précise un peu plus différente surtout parce qu'on se dit « Bon, je suis plus fumeur, je me présente pas comme un fumeur et il y a beaucoup moins d'attente. » Et en fait, ça va très loin. Ça va aussi sur, du coup, dans mon nouvel appart, j'aurai pas de cendrier, j'ai jamais fumé dedans, donc j'ai pas envie qu'ils sentent la cigarette. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. J'avais jamais vraiment essayé concrètement d'arrêter de fumer. Et la seule fois que j'ai voulu arrêter de fumer, je l'ai fait de cette manière, en profitant d'un environnement externe, surtout d'une phase de ma vie dans laquelle j'allais me déplacer, j'allais changer de cadre. Pour y apporter une nouvelle habitude ou en perdre une mauvaise. Et donc voilà, podcast court pour vous expliquer que moi, c'est assez positif de profiter d'une période de ma vie quelconque où je suis amené à changer de cadre pour prendre une mauvaise habitude, prendre une bonne habitude, désapprendre une mauvaise habitude plutôt. Ou me donner un cadre dans lequel je vais avancer sur un sujet. Donc ça revient un peu à tout ce que j'ai compris de ce que je voulais faire, de faire des journées du mieux que je puisse monosujet. J'avoue que c'est compliqué, mais là au moins j'ai une espèce de semaine thématique qui me pousse à faire les choses et ça fonctionne bien, en tout cas. Je me sens assez motivé, j'arrive à faire des grosses journées. Et puis étant donné que les à côté sont différents et intéressants, ça me permet de faire un pas de côté et de moins être la tête dans le guidon malgré les heures de travail. Voilà pour ce qui est du podcast du jour. J'espère que ça pourra vous apporter quelque chose et que vous saurez pourquoi pas saisir des opportunités pour faire un sujet ou si vous vous sentez bloqué et que vous perdez la motivation sur un projet de se dire bon. Je bouge, je change, je fais une semaine ici, une semaine là et je travaille sur le sujet. Ou même vraiment, si on est dans une pratique où on n'a pas de possibilité de bouger, je ne sais pas si vous êtes étudiant, au lieu de là, peut-être qu'on n'arrive pas chez soi, on peut essayer à la BU, même si on sait que ça ne nous va pas, on peut essayer d'aller chez des amis pendant une période pour faire ce projet, rentrer chez les parents. Et puis pour les entrepreneurs qui ont un peu de sous, je pense que. Vous le savez, mais se déplacer et puis avoir un sujet par endroit, ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.